Bonjour frères et sœurs. Donc nous allons continuer dans Romains 15. Puis aujourd'hui, on va étudier du verset 1 au verset 13. Toujours, comme on a commencé la semaine passée, le thème de l'unité. Ça tombe bien, l'unité. L'unité dans la diversité, si on peut dire aussi, comme chrétiens que nous sommes. Ce thème est présent à partir du chapitre 14. Qu'on a commencé la semaine passée, jusqu'au chapitre 15, verset 13. Donc, toute cette section, grande section, ça parle vraiment de l'unité. Donc, on peut résumer peut-être cette section en disant que ceux qui sont justifiés, ceux qui sont sauvés, juifs et non-juifs, doivent chercher activement l'unité. C'est une priorité. Activement l'unité du corps du Christ, n'est pas en mettant de côté les questions secondaires, mais en prenant compte quand même des questions secondaires qui sont importantes. Nous avons étudié dans le chapitre 14 concernant les problèmes entourant ce qu'on appelle, Paul appelle les faibles dans la foi. Et implicitement, on a parlé aussi des forts dans la foi. Donc on va parler aujourd'hui de façon plus claire, Paul est plus clair en ce qui concerne les faibles, les forts. En espagnol, on dit los débiles. Et quand j'ai entendu en français, t'es débile, donc c'est pas bon faire la traduction en espagnol. Donc, mais c'est les faibles et les forts, los fuertes y los débiles, en espagnol. Donc, le faible est quelqu'un, selon ce que Paul est en train de nous dire, quelqu'un qui est à risque de tomber dans le péché pour une question précise, à cause de sa compréhension biblique sur cette question-là. Et de ce qu'il croit être la volonté de Dieu. Donc, par exemple, dans cette section, Paul parle que les Juifs qui se convertissaient avaient tendance à conserver quelques coutumes de l'Ancien Testament. Et ils croyaient, s'ils ne le faisaient pas, ils croyaient qu'ils péchaient devant Dieu. Comme le manger des viandes considérées impures, ou encore en gardant le sabbat, et comme le jour qu'il fallait se réunir. Donc, il ne fallait pas travailler ce jour-là. Et s'il le faisait, il péchait contre Dieu. Donc, il y avait un problème avec ces juifs convertis. Mais d'autre part, selon Paul, le fort est celui qui mange de tout. Je suis fort, je mange de tout. Non, je ne mange pas de tout, c'est vrai. Je ne mange pas de tout. Je ne mange pas de concombres, donc. Je suis faible, donc. Et le fort, il mangeait tout, qui croyait que rien n'était impur en soi. Comme on a étudié la semaine passée l'enseignement de Jésus, qui disait tout est pur. Et même dans Actes, Pierre, le Seigneur se révèle à lui en disant que tout est pur, il pouvait tout manger. Et il considérait, ces forts-là, il considérait tous les jours égaux. Donc, contrairement aux Juifs, qui avait une tendance à vouloir encore garder le sabbat. Donc évidemment, il y avait un conflit. Et comme solution, Paul propose avec plusieurs encouragements, avec ce qu'on a lu dans le verset 14. Je fais un résumé parce qu'on va continuer un peu avec ce thème-là, avec même cette problématique dans l'Église de Rome. Donc, comme solution, Paul propose et fait quelques encouragements, quelques exhortations. Je vais juste résumer quatre. Faites bon accueil, c'est-à-dire acceptez-le à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Il dit, faites bon accueil aux faibles. Usez de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Il dit, usez de votre jugement. Et c'est sûr, quand on parle du jugement, un jugement selon ce que Dieu nous enseigne, selon la parole de Dieu. Marchez selon l'amour et ne causez pas, à cause d'un aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Il les exhorte à dire de marcher selon l'amour, comme on avait appris déjà dans le chapitre 12. Recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, ce qu'on a vu dans le chapitre 14. Rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, agir ainsi, Paul dit, est agréable à Dieu. Donc, ce qu'on a vu dans le chapitre 14, donc il existe une priorité dans l'Église. Et, comme on a vu, c'est vraiment l'unité. l'unité, la manifestation visible de l'amour. Notre amour se manifeste en ce qu'on est unis dans la famille de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la première partie du chapitre 15, aujourd'hui, que l'unité fait partie aussi du plan de Dieu pour son peuple. Nous avons vu la priorité, pardon, il y a un retour. Priorité, et c'est l'unité dans l'amour. Mais aujourd'hui, on va voir que l'unité fait partie. C'était déjà dans le plan de Dieu. Son peuple uni. Son peuple qui comprend les juifs et les non-juifs. Donc, je vous invite à lire Romains 15, 1 à 13, s'il vous plaît. Romains 15, 1 à 13. Romanos 15, 1 à 13. Wow. C'est bon, ça, parler en espagnol. J'ai bien parlé? Oui, merci. Romains 15, 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'outragent, de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin, que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon Christ Jésus, afin que, donc, comme un accord d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu par sa miséricorde, selon ce qui est écrit. C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations, et je chanterai en l'honneur de ton nom. Il dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Esaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe, c'est lui qui se levera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu clairement tout ça dans toute notre étude de Romains. Et techniquement, on a vraiment, on finira aujourd'hui toute la question pratique que Paul commence par le chapitre 12, la question pratique du chrétien, celui qui est sauvé. Donc aujourd'hui, on finit avec le verset 13 et Paul, après, il va parler en ce qui concerne son ministère, son appel. Et dans le chapitre 16, il y a les salutations et quelques autres exhortations et encouragements de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, on dirait que Paul finit tout ce qu'il voulait dire à cette église de Rome. Donc, comme nous l'avons vu dans le chapitre 14, il existe une priorité dans l'église. Et c'est l'unité, c'est-à-dire la manifestation de l'amour. Et nous allons voir dans ce chapitre, aujourd'hui, que l'unité fait partie du plan de Dieu. Donc, Paul conclut cet enseignement concernant l'unité par deux exhortations. Un, chercher l'unité suivant l'exemple de Christ, comme nous venons de le lire, du verset 1 à 5. Chercher l'unité suivant l'exemple de Christ. Et deux, chercher l'unité suivant le plan de Dieu, du verset 6 au verset 13. Donc, chaque exhortation, vous l'avez vu, termine par une courte prière de l'apôtre Paul, toujours concernant l'unité de l'Église. Regardons le premier point, du verset 1 à 6. Nous qui sommes forts, dit Paul, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun de nous plaise au prochain, pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Verset 1 et 2. Donc Paul se place clairement dans le camp de qui? Des forts ou des faibles? Il dit, nous qui sommes forts, dit l'apôtre Paul, il se place dans le camp des forts, comme il l'a fait dans le verset 14 du chapitre, verset 14 du chapitre 14. Donc il dit, supportez les faibles. Ce mot-là, ça ne veut pas dire l'endurer. Vraiment supporter, c'est comme, ça veut dire porter les faiblesses de ceux qui sont, porter les faiblesses de votre frère, porter les faibles, faire l'effort pour prendre soin des faibles, faire en sorte que les faibles soient accueillis dans l'Église, pas nécessairement les endurer. Ça fait un peu partie de la vie chrétienne aussi. Vous m'endurez des fois avec mes blagues plates. C'est vrai, merci pour votre patience. Merci. Il y a quelqu'un qui l'a levé la main ici. Donc, oui, c'est vrai. Donc, vous m'endurez des fois avec peut-être mon caractère. On n'est pas tous pareils. Donc, l'apôtre Paul il est en train de dire de supporter ces frères-là, de les entourer, de les porter. Donc, le fort doit comprendre que son but principal n'est pas de se faire plaisir. On aime nous faire plaisir. Hein? Le chrétien ne devrait pas être égocentrique, mais se soucier plutôt de le bien-être spirituel de son frère ou de sa sœur. Vous savez que dans le monde, frères et sœurs, les forts écrasent les faibles. C'est ça, on le voit, et abusent de leur pouvoir. Mais dans l'Église, le fort fait l'effort d'aimer le faible. Des fois, en se privant de certaines libertés par amour pour lui. Comme Paul le dit, pour ce qui est bon en vue de l'édification. Des fois, il faut se priver, comme Richard a donné plusieurs exemples. Il y a des frères ou sœurs qui n'aiment pas danser. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui dansent ici, qui peuvent danser? Il y en a qui ne peuvent pas danser. Donc, et puis, des fois, on se met à juger des gens. Est-ce que le chrétien peut danser? En me regardant au miroir, je dis non. Moi, pas moi. J'ai vraiment mauvais, là. Donc, j'aime pas danser, là, en tout cas. Mais il y a des frères qui dans leur temps, dans leur cuisine, sont en train de mettre la salsa chrétienne. Puis il se réjouit avec son Dieu. Puis il loue le Seigneur avec ça. Quand je suis venu ici dans cette église, il y a, j'allais dire 35 ans, non. Ça fait 35 ans que je suis au pays. Donc, je suis venu tout petit. Donc, 35 ans, mais je suis arrivé dès 19 ans, donc vous pouvez faire déjà le compte. Mais j'ai connu le Seigneur dans une église hispanophone. Et j'ai passé 10 ans de ma vie chrétienne, j'ai grandi là. Et c'était une église un peu ferme, et en ce qui concerne les règles et tout ça. Et quand je suis arrivé ici, vraiment, j'étais, comment je peux dire ça, agréablement surpris, parce qu'il y a des choses que des fois je faisais parce que les autres le faisaient. Et pour moi, c'était, waouh, c'était quelque chose de scandaleux des fois. Et juste pour vous dire, manger ici dans la grande salle, mettre des tables, c'était, waouh, scandaleux. Comment ça? Ça, c'est le lieu saint. Ça, c'est le sanctuaire. Mais je suis devenu fort. Puis là, maintenant je comprends, je vous comprends maintenant. Non, c'est une blague. Mais c'est ça. Mais des fois, on trouve que scandaleux des choses comme ça. Et ce sont vraiment des détails, des fois, ou des coutumes, des fois, qu'on garde, ou même des langages. C'est pas mauvais de dire, je suis ici sur le centre. C'est pas mauvais parce qu'on le comprend d'une certaine façon. Mais c'est vrai que c'est juste un local, c'est juste un bâtiment. Puis on peut manger, mettre des tables, sans problème. J'ai compris ça. Et donc, des fois, on est scandalisé par des choses comme ça. Il faut quand même, je crois, que mettre de nos efforts pour pouvoir comprendre ce que l'Écriture dit. Des fois, c'est une mauvaise compréhension des Écritures aussi. Qui est l'Église de Dieu? Est-ce que c'est le bâtiment? Non. L'Église de Dieu, c'est qui? Nous, chacun de nous. Qui est le temple de Dieu? Est-ce que c'est encore le bâtiment? Malgré qu'on a l'expression des fois de dire on va à l'église, on va au temple. Mais le temple de Dieu, c'est qui? C'est nous-mêmes. Qui est la maison de Dieu? Nous-mêmes. Nous sommes la maison de Dieu. Le chant qu'on chante des fois, nous venons dans ta maison. Mais c'est parce que nous venons comme église pour adorer notre Dieu. Nous sommes l'église, nous sommes la maison de Dieu. Donc des fois, ça implique parfois de faire des sacrifices pour garder le lien avec le frère et les sœurs. Paul nous donne un exemple suprême. Quel exemple nous donne Paul en ce qui concerne l'unité? L'exemple de notre Seigneur Jésus. Verset 3. Nous lisons dans le verset 3. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. C'est bon, ça, les mots qu'utilise l'apôtre Paul. Ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ce qui. Outrages sont tombés sur moi. J'aime le mot qu'utilise l'apôtre Paul. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Vous vous rappelez le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi sa prière? Père, si c'est possible pour toi, passe de moi cette coupe, mais avant tout que ta volonté soit faite. Il allait mourir, il allait souffrir. Peut-être ça ne lui plaisait pas ça, mais il a fait à cause de nous. Et Paul utilise cet exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, Dieu lui-même, quand on voit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, avait une liberté totale, et le droit même divin. On est en train d'étudier la personne de Christ à 9h, et on voit que Jésus même est Dieu. Il aurait pu venir en exigeant toute de suite que tout le monde se mette à genoux et l'adore. Mais au contraire, il s'est fait homme, il a pris la condition d'un homme, comme on le lit dans Philippiens 2. Il a même lavé les pieds des disciples. Il a supporté sans riposter et sans se plaindre les insultes et les coups de ceux qui devaient lui rendre hommage. Mais il a supporté tout ça. Paul cite le psaume 69 et ses paroles du psalmiste l'appliquent à Jésus. Il dit des outrages, des insultes de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Donc Paul apporte son argument ultime pour les encourager, pour nous encourager à l'unité. C'est l'exemple de Christ. Donc si le Seigneur Jésus a supporté tant de justice pour nous racheter, nous devons aussi être prêts à nous passer de quelques libertés, même légitimes, afin de gagner nos frères, afin de prendre soin de nos frères, aimer nos frères. Frères, comment ne pas suivre l'exemple de notre maître, de notre sauveur? Paul y dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Pourquoi Paul cite donc l'Ancien Testament, comme on vient de lire dans le psaume 69, plutôt que de faire une référence d'un événement, tel événement précis de l'Évangile? Donc il faut nous rappeler que dans le temps que Paul est en train d'écrire cette épître, les chrétiens ne possédaient pas encore tout ce que nous avons maintenant, la parole de Dieu complète avec le Nouveau Testament. Paul était en train d'écrire aux Romains. Donc peut-être les évangiles étaient déjà commencés à être écrits, mais les chrétiens n'avaient pas ça, n'avaient pas une référence. Et Paul n'a pas dit, selon l'évangile de Jean, on lit ça dans l'évangile de Jean, non. Il utilise l'Ancien Testament pour pouvoir enseigner aux chrétiens. D'ailleurs, quand il prêche l'évangile dans Actes, vous voyez qu'il utilise toujours l'Ancien Testament pour présenter l'évangile. Les seuls écrits reconnus inspirés à l'époque étaient juste l'Ancien Testament. Et Paul profite, en plus de l'occasion, pour rappeler que Jésus était l'accomplissement des prophéties messianiques, qu'on appelle. Et il choisit de citer le psaume 69, qui comporte d'ailleurs nombreuses prophéties accomplies en Jésus-Christ. Si vous lisez le psaume 69, vous allez voir juste pas ces paroles-là qu'on vient de lire, sinon d'autres allusions à ce qui concerne Jésus et ses souffrances. D'autre part, Paul souligne aussi l'importance de la parole de Dieu. Dans le verset 4, nous lisons « Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre quoi? Instruction, pour notre édification, afin que par la patience, ces deux mots-là, la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc on voit trois fonctions ici de la parole de Dieu qui ressortent de ce texte. D'abord, les écrits même de l'Ancien Testament servent pour notre instruction. On le fait une allusion similaire dans le verset, dans le chapitre 4, verset 23, quand il parle d'Abraham, et que nous sommes, il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul, Abraham, qu'il est écrit, c'est aussi à cause de nous. Donc il fait un peu cette même allusion de l'Ancien Testament. Les écrits, frères et sœurs, la parole de Dieu offre patience et consolation. Et vous êtes d'accord avec moi que la patience et la consolation étaient indispensables pour les chrétiens dans ce temps-là, à Rome. Cohabiter, comme on l'a vu déjà auparavant dans tout ce qu'on a prêché jusqu'à maintenant, la cohabitation des Juifs et des Grecs nécessitait l'adaptation difficile et constante même. Et en plus, d'autres se rajoutaient les persécutions. Donc il y avait toujours une rivalité entre les... dans ce temps-là, entre les Juifs et les Juifs convertis et les païens qui étaient convertis. Dont les Écritures, frères et sœurs, correctement comprises et appliquées, amènent les chrétiens à posséder l'espérance. La parole de Dieu annonce le retour des Christ et le salut final, comme on l'a vu il y a deux semaines. Donc, frères et sœurs, certains aspects de la vie chrétienne peuvent être pénibles, tels la communion fraternelle avec quelqu'un de très différent par rapport à nous. Est-ce que vous le vivez ça des fois? Oui? Des fois, c'est un peu difficile. Hein? On a différents tempéraments, nous avons différents caractères, nous avons différentes idées, nous n'avons pas la même couleur, et nous n'avons pas le même style. Donc, des fois, on tombe dans des discussions inutiles, des fois, et ça cause malheureusement des divisions. Et des fois, c'est juste des détails. Mais Paul nous encourage à garder cette unité malgré la diversité, malgré nos arrière-plans. Mais je le dis toujours, on remercie l'Église, à Dieu pour notre Église, là, parce que, sachant que nous sommes de différents pays, nous passons du bon temps en communion. J'aime beaucoup les dîners agapés que nous avons, là, quand on mange de tout, pas moi par exemple, mais vous mangez de tout, et, parce qu'il y a des différentes cuisines, hein, puis on passe un bon temps de communion. Moi, je profite de la communion parler, pas à manger, là, parce que je suis très difficile, je suis faible en ce qui concerne la nourriture. Mais nous passons un bon temps. Et un matin, je commençais à voir combien de nationalités, vraiment, je n'ai pas fait encore la mise à jour, mais il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup de nationalités ici représentées. On avait dit, il y a quelques années, 30 pays à peu près représentés. Je crois qu'on est encore dans ces noms, peut-être un peu plus. Je vais me mettre à faire sortir une chiffre pour savoir combien de pays nous sommes ici à l'église de Rosemont. Algérien, c'est ça, j'ai oublié tantôt, Algérien, Madagascar, Gabon aussi, c'est ça, Brésil, Portugal, Espagne, Colombie, ouais, Colombia, ouais. Il y a beaucoup là qui nous visitent aujourd'hui aussi. Donc, c'est vraiment une richesse. Mais il y a la diversité. Mais ce que Paul nous exhorte, c'est à l'unité dans la diversité. La parole de Dieu nous donne l'espérance qui nous permet de nous projeter vers l'avenir et imaginer cette Église présentée à Jésus-Christ comme une épouse sans tache, ni ride, parfaite. Donc malgré les conflits qui menacent l'unité de cette Église, de l'Église, Paul a l'espérance de voir l'Église telle que Dieu voudrait la voir. Et il prie dans ce sens-là. C'est pour ça que tantôt je dis à chaque section, il finit par une prière. Et nous allons voir cette prière-là dans le verset 5 à 6. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée ici. L'un à l'égard des autres, selon Christ Jésus. Une même pensée, pas selon moi, là. Pas selon mes idées, pas selon mes goûts. Selon le Christ Jésus. Afin que d'un commun accord, d'une seule voix, ça fait penser à la chorale, mais il ne faut pas prendre la chorale, mais on peut faire un peu passer l'exemple de la chorale, plusieurs voix,
une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'unité de l'Église glorifie Dieu. Une même pensée, un commun accord, une seule voix, c'est-à-dire l'unité selon Christ Jésus, en suivant son exemple. Regardons maintenant le deuxième point. Chercher l'unité suivant le plan de Dieu. Versets 7 à 13. Avec le verset 7, Paul, on dirait qu'il boucle la boucle en répétant l'exhortation du chapitre 4, 14, 1. Il dit, nous lisons comme ça, « Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Faites-vous mutuellement bon accueil. » Donc, la première exhortation qu'on a vue s'adressait aux forts. Vous vous rappelez? En faveur des faibles. Cette dernière s'adresse à qui? S'adresse à tout le monde, en réalité. Il dit, faites-vous mutuellement bon accueil. Comme Christ vous a accueilli. Le chrétien pardonne parce qu'il a été pardonné par Dieu à travers Christ. Il aime parce qu'il a été aimé en premier par Dieu. Et il accueille parce qu'il a été accueilli par Dieu. Donc la grâce de Dieu que nous avons reçue par la foi produit une attitude de grâce aussi envers les autres. Est-ce que je peux refuser d'accepter mon frère que Christ même a reçu? Tout en réalité, nos attitudes et nos actions doivent être pour la gloire de Dieu, comme Paul exhorte dans ce verset. À partir du verset 8, Paul conclut son grand appel concernant l'unité de l'Église à Rome. Il est fait par une série de citations, comme nous avons lu, en rappelant que les prophètes eux-mêmes avaient prédit, espéré et attendu même cette unité. Donc l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, tant annoncée par les prophètes, est enfin acquise par le sacrifice de Jésus. Elle est l'accomplissement du plan divin. Comme dit l'apôtre Paul quelque part ailleurs aussi, il a détruit ce mur de séparation qu'il y avait entre eux à cause de Jésus-Christ. Regardons ce que l'apôtre Paul mentionne dans le verset 8 à 12. La première partie, il dit, « Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité des dieux en confirmant les promesses faites au Père. » Ça, c'est la partie pour qui? Pour les Juifs, en réalité. Il dit, Christ est devenu serviteur des circoncis, les Juifs, pour prouver la véracité des dieux en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu. À cause de quoi? Par sa miséricorde. Et il s'allonge avec toute une série de versets tirés de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, il dit, selon qui est écrit, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. Psaume 18, 50. Et il dit encore, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple, Deutéronome 32, 43. Et encore, louez le Seigneur toutes les nations, et tous les peuples te louent, Psaume 117, 1. » Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe, celui qui lèvera pour commander aux nations, les nations espéreront en lui. Ésaïe, chapitre 11, verset 1 et verset 10. Dont les prophètes, on peut appeler aussi le prophète Moïse, David, Ésaïe, cités ici, avaient compris que le salut de Dieu avait une portée universelle. Avaient quand même une idée que ce salut avait une portée universelle. Ils attendaient un Messie pour tous les peuples. Et Paul identifie en Christ l'accomplissement de ses promesses. Donc l'Église, pour l'apôtre Paul, représente le miracle de Dieu. Non seulement pour le fait que Dieu sauve aussi les païens, mais aussi dans le fait que les Juifs et les païens deviennent des frères, louant du même voix le Seigneur. Et il conclut cette grande section par encore une prière à Dieu en ce qui concerne aussi l'espérance. Verset 13, « Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. » Par la puissance de qui? Pas par notre puissance, par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible pour le chrétien de pouvoir soutenir son frère qui est faible dans la foi où se supportaient les uns les autres par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc le mot prédominant de cette bénédiction, c'est quoi? C'est l'espérance. Peut-être il fait allusion à ce qui a été dit dans le verset avant, en ce qui concerne le prophète Ésaïe. Donc l'espérance commune, frères et sœurs, est un aspect important de l'unité. Nous sommes assurés que nous attendons beaucoup meilleur de ce que nous vivons maintenant. On l'a chanté tantôt, dans ce qu'on vient de chanter là, Dieu Tout-Puissant, à la fin, le dernier refrain. Nous serons tous ensemble avec lui pour l'éternité, libérés du péché et du mal. Mais en attendant, espérons. Paul avait écrit au chapitre 14, 17, que le royaume des dieux, ce n'est ni le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par qui? Encore là, il répète, par le Saint-Esprit. Une vie par la puissance du Saint-Esprit, lui seul nous donne de vivre cette unité, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ces conflits que nous vivons maintenant sont temporaires aussi. Quand on va être au ciel, là, il n'y aura plus de chicanes. « Hey, mes ailes sont plus belles que les tiennes. » Non, on ne sait pas comment on va être. Là. Il y en a qui disent qu'on sera comme les anges, mais je ne pense pas qu'on aura des ailes. Là. Mais ouais, ma demeure est plus grande que la tienne. Et on va être... Non, ça finira. Il n'y aura plus de... Pardon? Plus de concombres? Non, au contraire. Peut-être je vais aimer les concombres au ciel. Donc Dieu va me transformer. Je vais pouvoir en faire... En réalité, je ne serai plus une pierre d'achoppement pour vous. Je vais manger tout ce que vous mangez. Donc, mais il n'y aura plus ça. Mes frères, en attendant, le Seigneur Jésus dit, espérons, soyons unis. Lorsque le fort et le faible à Rome se saluent, malgré les différences, non seulement ils suivent l'exemple de Christ, mais ils jouent un rôle pratique dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans les Écritures. C'était prévu cette unité. Paul mentionne dans Galates 3, 8, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies et toutes les nations seront bénies en toi. Il nous a accueillis, peu importe notre arrière-plan, notre lieu de naissance, notre trait de caractère et tout ce qui nous sommes. Puisque Christ a accueilli les Juifs et non-Juifs convertis, nous devons nous accueillir et conserver l'unité. C'est précieux, l'unité dans la diversité. Et cela nous rappelle comment l'apôtre Paul a commencé l'Épître aux Romains. Quand au début de son épître, dans le verset 16, que vous connaissez très bien, je crois, Romains 1, 16, c'est quoi? « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. » De quiconque croit, les Juifs premièrement, puis les Grecs, puis les Péruviens, puis les Français, puis qui d'autre? Etc. J'aurais dû me mettre en bas de la liste. Donc vraiment, il faut que je fasse preuve de ne pas me chercher ma... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Oubliez le Pérou. Des Juifs, premièrement, et du Grec. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés à glorifier Dieu dans la diversité, dans l'unité. C'est que Jésus a prié pour ses disciples. Vous vous rappelez la prière qu'on voit dans Jean 17? Il dit qu'il prie au Seigneur pour qu'ils soient unis, comme nous sommes un. Et il dit, seulement, je ne prie pas pour eux, pour ceux qui vont croire à cause d'eux. Qui ça? Nous. Donc, prions à Dieu pour qu'on puisse garder cette unité qui est précieuse devant Dieu. Amen.